L'homme a toujours cherché à connaître l'avenir, d'où le succès des diseuses de Bonaventure ou des écrits de Nostradamus. Les textes sacrés contiennent beaucoup d'informations concernant le futur des hommes et du monde. En effet, les prophéties bibliques sont le moule dans lequel Dieu verse l'histoire. Les disciples de Jésus posent trois questions. Premièrement, quand aurait lieu la destruction du temple qu'il avait annoncé? Deuxièmement, par quel signe reconnaîtra-t-on sa venue? Et finalement, quand viendrait la fin de ce monde? Je lis la suite du texte dans le chapitre 21 de l'Évangile selon Luc. Certains parlaient du temple. Avec ses belles pierres et les beaux objets déposés en offrande, il est magnifique, disait-il. Jésus leur dit, « Il viendra un temps où tout ce que vous regardez sera détruit, pas une pierre ne restera sur une autre. » Maître, lui demandèrent-ils alors, « Quand cela se produira-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements devront avoir lieu ?» Versets 5 à 7. Les disciples s'imaginaient que la destruction du temple marquerait la fin des temps et voulaient savoir ce qui allait arriver avant tout cela. Ils commencent doucement à admettre que l'instauration du royaume n'est pas pour tout de suite, mais pensent quand même que ça n'allait pas trop tarder. Ils n'ont encore aucun concept du temps de la grâce et de l'Église, époque que nous vivons actuellement. Je continue le texte. Jésus leur dit, « Faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi le Messie !» ou encore, « Le temps est venu !» Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas, car tout cela doit arriver d'abord, mais la fin du monde ne viendra pas aussitôt après. » Puis il ajouta, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies séviront. Des phénomènes terrifiants se produiront et dans le ciel des signes extraordinaires apparaîtront. Versets 8 à 11. Avant la destruction de Jérusalem, comme avant le retour de Jésus, il y aura tout d'abord des faux Christ, puis des guerres. Ce ne sera pas un temps de tranquillité. Troisièmement et en même temps, auront lieu des catastrophes naturelles et des épidémies d'une envergure jamais vue. Ces événements sont similaires à ceux rapportés dans le livre de l'Apocalypse et correspondent à la période qui précédera le retour en gloire de Jésus-Christ. Je continue. Mais auparavant, on se saisira de vous, on vous persécutera, on vous traduira devant les autorités religieuses juives et vous serez jetés en prison. À cause de moi, vous serez traînés devant des rois et des gouverneurs. Ces choses vous arriveront pour vous donner l'occasion d'apporter un témoignage. Ayez donc cette ferme conviction. Vous n'aurez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi, en effet, qui vous donnerai des paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra réfuter et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos proches et vos amis qui feront mettre à mort plusieurs d'entre vous. Versets 12 à 16. En quatrième lieu, Jésus annonce que les croyants seront violemment persécutés. Les premiers disciples allaient devoir faire face à la trahison et à la haine durant la période précédant la destruction de Jérusalem. Ces exactions seront un signe avant-coureur de la persécution ultime que les futurs disciples connaîtront, ceux vivant à la fin des temps, juste avant l'instauration du royaume. Le Seigneur s'adresse en priorité aux Juifs et, secondairement, à l'Église. Dans un autre évangile, Jésus avertit ses disciples en ces termes. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendriez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. » Fin de citation. Je continue le texte. « Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais pas un seul cheveu de votre tête ne se perdra. En tenant bon, vous parviendrez au salut. » Versets 17 à 19. La persévérance des croyants dans l'épreuve est le signe de la réalité de leur foi. C'est ce que Calvin appela la persévérance des saints. Néanmoins, malgré toutes ces choses horribles, Dieu reste le maître des circonstances. Il protégera les siens. Cependant, dans l'administration divine, cette assistance ne prend pas la même forme pour tous. Dans la perspective de l'éternité, la destruction du corps est peu importante. Ainsi, Dieu fera en sorte que certains échapperont à la mort, tandis que d'autres, assistés du Saint-Esprit dans leur défense, l'honoreront par leur témoignage en tant que martyrs. Ceux qui seront assassinés à cause de leur allégeance à Jésus-Christ ne mourront pas pour rien. Que ce soit leurs cheveux arrachés ou leurs larmes, toutes leurs souffrances sont précieuses aux yeux de Dieu et leur récompense sera grande dans le royaume des cieux. Je continue le texte. Quand vous verrez des armées ennemies encercler Jérusalem, sachez que sa destruction est imminente. Alors, que les habitants de la Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui se trouveront dans Jérusalem s'empressent d'en sortir, que ceux qui seront dans les champs ne rentrent pas dans la ville. Ces jours-là, en effet, seront des jours de châtiment où tout ce que disent les Écritures s'accomplira. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent, car ce pays connaîtra une terrible épreuve et le jugement s'abattra sur ce peuple. Ses habitants seront passés au fil de l'épée ou déportés dans tous les pays étrangers, et Jérusalem sera occupée par les païens jusqu'à ce que le temps de leur domination soit révolu. Versets 20 à 24. Jésus revient à la première question des disciples. Quand sera détruit le temple? Il répond en disant que dès que les armées romaines s'approcheront de Jérusalem, ils devront fuir au plus vite. Ceci était un avertissement pour les chrétiens. Et en effet, lors de la première attaque romaine, les chrétiens ont eu le temps de quitter la ville de Jérusalem. L'historien juif Joseph décrit l'effroyable siège de la ville durant lequel les gens tombaient comme des mouches. On disposait de leurs corps en les jetant par-dessus les murailles. Les mamans mangèrent leurs propres enfants tellement la famine était extrême. Les Juifs seront soit tués, soit emmenés comme esclaves. Selon la perspective des Écritures, aujourd'hui encore, Jérusalem est considérée comme occupée par les étrangers parce que la nation d'Israël est perpétuellement menacée et sera à nouveau éparpillée de par le monde avant le retour définitif de Jésus-Christ et l'instauration de son royaume de 1000 ans. De plus, comme chacun sait, la mosquée d'Omar se trouve actuellement sur l'emplacement du temple. Je continue le texte. Il y aura des signes extraordinaires dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d'une mer démontée. Plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Versets 25 à 27. Des signes à caractère cosmique précéderont la restauration de Jérusalem ainsi que la venue de Jésus, le Fils de l'homme. ce qui arrivera sur terre et dans les cieux terrifiera les habitants de la terre. La mer ébranlée sera un signe avant-coureur que le monde entier sera bientôt dans un état chaotique, hors de contrôle. Jésus cite une partie d'une prophétie tirée du livre de Daniel de l'Ancien Testament. Je la lis. « Je regardais encore dans mes visions nocturnes. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours, et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté, la gloire et la royauté, et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais, et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. » Fin de citation. Jésus disait à ses disciples que lui, le Fils de l'homme, viendrait pour recevoir le royaume, celui-là même qu'il proclamait depuis le début de son ministère. Je continue le texte. « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance se rapproche. » Il ajouta cet exemple. « Prenez le figuier ou n'importe quel autre arbre. Il vous suffit de voir que les bourgeons commencent à pousser et vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces événements se produire, sachez que le royaume de Dieu est proche. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas avant que tout ne commence à se réaliser. » Versets 28 à 32. Dans l'Ancien Testament, le figuier représente généralement la nation d'Israël. Mais cet arbre est aussi tout ce qu'il y a de plus commun en Palestine. En avril, quand poussent les feuilles, on sait que l'été est proche. De même, ceux qui verront les événements qui précéderont de peu la seconde venue de Jésus seront également témoins de l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Christ a décrit la terrible fin de l'État d'Israël. Après une telle destruction et la déportation des survivants jusqu'aux extrémités de la terre, tout laissait à penser que la race juive allait disparaître. Les pogroms et les nazis ont également essayé de les exterminer. Mais contrairement aux probabilités, la descendance d'Abraham est toujours bien présente aujourd'hui, presque 2000 ans après la prédiction, et le sera encore lorsque Jésus reviendra. Je continue jusqu'à la fin du chapitre. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup, car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. » Jésus passait ses journées à enseigner dans la cour du temple. Ensuite, il sortait de la ville et passait la nuit sur la colline appelée Mont des Oliviers. Dès le point du jour, tout le peuple affluait vers lui dans la cour du temple pour l'écouter. Versets 33-38. Jésus est très solennel et place beaucoup de poids sur ses propres paroles, garantissant sur lui-même qu'elles s'accompliront. De plus, il est lourde menace à l'égard des foules qui sont pourtant captivées par son enseignement. C'est sûr que ces gens n'avaient pas l'habitude d'entendre des choses pareilles. Son avertissement tient toujours. « Les choses de cette vie peuvent tellement me préoccuper que tout ce qui est du domaine spirituel et du royaume de Dieu, je le néglige. » Peut-être que je m'en remets à un prêtre ou un pasteur ou un imam, mais cela ne peut remplacer la décision personnelle que je dois prendre par rapport au Christ. Et alors, malheur à moi, lorsque tout à coup les prédictions de Jésus seront irrémédiablement enclenchées. quand ces événements inattendus et universels commenceront à se réaliser sous mes yeux, ce sera déjà trop tard, car je ne serai pas prêt à entrer dans le royaume de Jésus-Christ. Nous voici maintenant au chapitre 22 de Luc, qui nous rapproche de la croix que préparent des événements à la fois sur terre, dans les cieux et aux enfers. Les religieux complotent contre Jésus. Satan est entré dans Judas. Des anges vont venir soutenir le Christ dans son agonie. Je commence à lire. On était à quelques jours de la fête des pains sans levain, appelée la Pâque. Verset 1. La mort de Jésus-Christ est survenue au moment de la Pâque, la célébration annuelle en souvenir de la délivrance que l'Éternel avait accordée aux Israélites tout en punissant les Égyptiens qui les avaient mis en esclavage. Cela faisait environ 6 mois que Jésus avait pris la décision de descendre à Jérusalem afin d'y mourir et de devenir ainsi l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je continue le texte. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient un moyen de supprimer Jésus, mais ils avaient peur de la réaction du peuple. C'est alors que Satan entra dans le cœur de Judas, surnommé l'Iscariot, l'un des 12. Judas alla trouver les chefs des prêtres et les officiers de la garde du temple pour s'entendre avec eux sur la manière dont il leur livrerait Jésus. Ils en furent tout réjouis et convinrent de lui donner de l'argent. Il accepta, et dès lors, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Versets 2 à 6. Les chefs religieux cherchent un moyen de se débarrasser de Jésus en 12. Mais ils hésitent, craignant le peuple, car sa popularité parmi le grand nombre de pèlerins présents dans la ville aurait facilement pu les conduire à se retourner contre eux. Satan est de la partie, bien sûr, mais il va signer son arrêt de mort, car par la croix, Jésus, en tant que champion de l'humanité, va triompher de Satan et de la mort qui nous a servis tous. Judas, quant à lui, offre d'informer la meute religieuse du moment propice pour arrêter Jésus lorsqu'il sera loin des foules. Je continue. Le jour de la fête des pains sans levain, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer le repas de la Pâque. Où veux-tu que nous le préparions ?» lui demandèrent-ils. « Eh bien, quand vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le jusqu'à la maison où il entrera. » Et voici comment vous parlerez au maître de maison. Le maître te fait dire, « Où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples ?» Alors, il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. Versets 7 à 12. Le repas de la Pâque était pris à l'intérieur de la ville. Les préparatifs comprenaient le sacrifice de l'agneau au temple, la cuisson et la confection des plats d'accompagnement. À cette époque, seules les femmes transportaient l'eau du puits à leur habitation. Un homme, portant une cruche, serait donc facile à repérer. Le maître de maison était sans aucun doute un disciple, mais son nom ne nous est pas donné. Autrement, il serait dans le calendrier. Je continue. Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit et préparèrent le repas de la Pâque. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Versets 13 à 16. Dans quelques heures, Jésus sera exécuté sur la croix. Il partage un dernier repas avec son cercle d'intimes. Il aimait la compagnie de ces hommes qui, à l'exception de Judas, avaient cru en son message du royaume. ceux-là même qui l'avaient suivi, sachant qu'il était véritablement le Messie. Ils avaient tout quitté pour se mettre à son écoute et avaient été appelés à un style de vie fort éloigné de celui des autres hommes. C'était sa dernière Pâque avec eux. Mais celle-ci allait revêtir une toute nouvelle signification qui perdurerait jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Cette fête, en compagnie des disciples, est une anticipation au banquet messianique qui marquera la venue du royaume dans toute sa puissance et qui mettra un terme, une fois pour toutes, à la mort et à son cortège infini de souffrances. C'est aussi en cette occasion que Jésus parla du royaume pour la dernière fois. Je continue le texte. Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dorénavant je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. » Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versée pour vous. » Versets 17 à 20. Jésus explique à ses hommes la signification de cette cérémonie du pain et du vin. Ces deux aliments, fragiles, faisaient partie intégrante de la culture juive. Ils constituaient les éléments de base de tous les repas. C'est souvent par une statue en bronze ou en marbre que les grands de ce monde veulent être rappelés au bon souvenir de leur postérité. Jésus a choisi le pain et le vin. Par ces symboles, il montrait que son corps brisé et son sang versé étaient nécessaires pour instituer la nouvelle alliance. Il était le sacrifice offert pour ôter les fautes de tous les hommes de tous les temps. Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève mon péché et le vôtre, si vous le voulez bien.